Chapitre 21. L'idée germait depuis très longtemps dans la tête d'Agathe. À leur communion solennelle, les jumelles, Thérèse et Hélène, lui avaient montré le contenu de leur aumônière brodée. Serrées dans les pages de leur missel, des images pieuses représentaient leurs patronnes respectives, sainte Thérèse et sainte Hélène. Les filles de la crémière les distribuaient avec parcimonie, car elles étaient censées avoir des pouvoirs miraculeux. Sur celle de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus était cousu un brin de tissu. Une écharde microscopique était fixée, à l'aide de papier collant, sur l'effigie de sainte Hélène. « C'est un morceau du voile de sainte Thérèse. C'est du bois de la vraie croix. Sainte Hélène l'a rapporté de Jérusalem !» affirmaient en chœur les jumelles. Lino avait fait un rapide calcul. Si on avait distribué plus de 100 000 images de la première sainte et autant de la seconde, on aurait pu emmailloter la basilique de Notre-Dame de la Garde tout entière et en lambrisser l'intérieur.
64 756 mètres carrés de voile et 13 892 mètres cubes de bois,
précisait-il, tout fier de ses décomptes pourtant assez peu fiables. Ébranlé, Agathe soupçonnait les jumelles d'avoir elles-mêmes artisanalement confectionné leurs images, histoire d'impressionner leur entourage. Mais qu'importait la supercherie, l'essentiel était ailleurs. Aussi, malgré ses ancêtres cévenols et helvétiques réfractaires à toutes ses idolâtries, selon les mots de bonne maman, elle se mit en quête de découvrir les miracles accomplis par sainte Agathe et accessoirement par sainte Lucie. Mais elle eut beau compulser les rayons religieux de la bibliothèque familiale, elle ne dénicha pas une seule ligne sur les saints et les saintes. Ce n'était tout de même pas dans l'histoire de la coupe de Calvin ou dans l'origine des rassemblements du musée du désert qu'elle allait puiser son inspiration. Lucie lui conseilla alors de feuilleter le gros livre d'art du père. Quel ne fut pas le ravissement d'Agathe en découvrant les peintures grandioses et lumineuses d'un peintre vénitien,
Giambattista Tiepolo.
Enfoncez les fades images distribuées par ses petites camarades. Quoi de plus beau que le visage pâle et illuminé d'extase de sa sainte, à qui un bourreau musclé vient de trancher la poitrine. Ridicule le bout de voile de sainte Thérèse, à côté de ses seins bien galbés, posés, tels deux meringues, sur un plateau d'argent. Sur la page suivante, entr'ouvrant ses lèvres exsangues, sainte Lucie recevait la sainte communion, sous le regard attendri de deux angelots. Un couteau taché de sang, l'arme du crime, pointait sur le dallage, près d'une assiette où reposaient les deux globes oculaires fraîchement arrachés. Agathe n'en était pas à ses premiers essais. Elle avait encore en mémoire la tragédie du cyclope, alias pauvre René, affalé dans la porcherie. Elle décida de monter un drame mystique et d'en rédiger l'argument. Chapitre 22. L'entreprise était d'envergure, et le succès fut à la hauteur des espérances de tous les protagonistes. Le père avait permis que la représentation soit donnée dans le jardin de Beaucèdre. « Passe d'abord ton bachot », avait-il déclaré à Agathe. Prétextant des révisions, les jeunes comédiens se réunissaient, dès la sortie du lycée, dans la remise débarrassée de la vieille hochequisse paternelle, pour y répéter leur rôle. Auteur du drame, Agathe s'était aussi attribué le titre de metteur en scène. Elle n'eut pas de mal à convaincre bonne maman de devenir la costumière, dûment secondée par Paulette, promue habilleuse. Toutes deux durent jurer le secret, car les adolescentes redoutaient un peu que le thème choisi étonne, voire irrite, leurs parents. Mieux valait leur ménager une complète surprise. S'entourant de mystères, la petite bonne et la grand-mère récupérèrent les tentures d'avant-guerre que maman venait de décrocher des fenêtres du salon et de la salle à manger. La mode était au rideau synthétique, voire en plastique. Une idée trouvée dans elle, nouveau bréviaire des femmes modernes. Maman échangea le beau velours vert bouteille contre de la fibrane violette. Matière et couleur s'accordaient bizarrement avec les meubles anciens hérités des parents Cévenoles. En revanche, le velours vert soulignait à merveille le teint mat et les cheveux foncés de la comédienne et sainte du même nom, Lucie en l'occurrence. Cette dernière dénicha le décorateur. Elle avait obtenu de son père le droit d'aller une fois par semaine suivre des cours aux Beaux-Arts. Au grand étonnement d'Agathe et de Lino, elle en revint un jour suivie d'un grand échalas taciturne, au visage granuleux, au nez incertain et aux yeux rapprochés. « Et comment s'appelle ce jeune homme ?» avait demandé le père, selon la formule désormais consacrée, exagérant le ton qu'il prenait autrefois pour lire la Bibliothèque rose. « Turbarian, » dit Lucie. « Zurbaran ?» répéta bonne maman qui commençait à devenir dure d'oreille. Et le nom resta au jeune Arménien, rebaptisé du nom du peintre espagnol alors qu'il allait sur ses 17 ans. Zurbaran se saisit du livre du père et s'abîma dans la contemplation des peintures de Giambattista. Il fouilla ensuite dans sa musette et extirpa quelques tubes à moitié écrasés et se mit à l'ouvrage, déposant de minutieux coups de pinceau sur le dos de rouleaux de papier peint trouvé au fond de la remise. Sous le regard intrigué de Lucie, surgirent des colonnes aux chapiteaux décorés de ses chers acanthes. Elles supportaient une galerie où étaient suggérés de gracieux joueurs de théorbe. Dans un ciel crémeux envahi de nuages couleur de miel, des poutis dansaient la farandole, des brassées de roses cascadaient jusqu'au sol. Durant tout le temps qu'il peignait, il ne posa qu'une seule question. « Veux-tu que je fasse aussi Dieu le Père ?» À quoi Lucie répondit fermement par la négative. « Passe encore qu'il devienne martyr, mais pas question de penser à Caïn et à l'œil comminatoire de son persécuteur lorsqu'elle recevrait l'hostie. » Un peu jaloux des cris admiratifs que prodiguaient ses amis à Zurbaran, Lino accepta de devenir chef accessoiriste. Il venait de commencer ses études de médecine et jeta tout naturellement son dévolu sur les instruments de torture. Il se procura d'énormes tenailles. Elles ne mesuraient pas moins de 80 centimètres, assez pour arracher les seins de sainte Agathe. Il consentit à sortir une érigne de sa précieuse trousse d'oculiste, aux fins d'énucléer les yeux de sainte Lucie. La jeune comédienne apprit enfin à quoi pouvait servir l'instrument à double crochet qui l'avait tant intriguée. Le reste fut plus facile. Le jour venu, il demanda à Zurbaran de peindre en rose chair l'extérieur d'un melon. Il coupa le fruit en deux et déposa les demi-sphères, une poitrine de martyr qu'il trouvait forte à son goût, sur une assiette en étain dérobée à maman. Deux calots, tirés d'un vieux sac de billes, imiteraient les yeux de l'autre jeune chrétienne. Agathe distribua les seconds rôles. À Thérèse, la tâche de tamponner le buste ensanglanté de la sainte. À Germaine et à Hélène, plus connues sous le nom d'Aphrodisie et de Vespasie, à l'ère de Dioclétien, celle des mères maquerelles, entraînant les deux vierges dans les bas-fonds de la luxure. Sarah, qui avait une excellente diction, serait la récitante. Côté garçon, pauvre Runé jouerait le double rôle du consul Quincianus, l'adorateur d'idoles suintant de désir pour sainte Agathe, et du consul Pachas, l'amoureux despote et vil de sainte Lucie. Pour parfaire la symétrie, Lino camperait les deux bourreaux. En rentrant du lycée, Louchette le trouvait parfois au rond-point des acanthes, déclamant son maigre rôle en agitant les tenailles dans sa main droite et la petite érigne dans la gauche. Thank you. chapitre 23. Mystère de Sainte Agathe et de Sainte Lucie, Vierges et Martyrs, drame en 5 tableaux. Le programme avait été confectionné avec soin par Lucie. Au cours des années 90, il figura dans une exposition comme un des premiers témoignages de son œuvre de génie. La lettrine de chaque héros était une petite miniature en soi. Pour une raison obscure, elle avait particulièrement soigné le cul de Quincianus, cerné de flammes, et le P de Pachas, autour duquel s'enroulait une grappe d'acanthe. Elle avait aussi reproduit une partie du décor brossé par Zurbaran. Sur le haut de la page, des angelots jouaient à cache-cache derrière les nuages aux suaves teintes caramel. La surprise fut totale de part et d'autre. Pour les spectateurs, car ils ne reçurent les programmes qu'une fois assis sur les sièges du jardin, en rang d'oignon, face au vieux cèdre amputé. Pour les acteurs, qui s'agitaient derrière le rideau de fortune, et virent arriver, à leur grand étonnement, toutes les amies parpaillotes de maman. Elles s'assirent un peu guindées aux côtés de la crémière, de l'oncle et de la mémé de Germaine, de la tante de Sarah, de Fernand, sans oublier le fiancé de Paulette. « Il va falloir changer la scène du bordel !» décréta fermement Agathe. « Jamais maman ne pourra se rendre au thé des dames protestantes si elles assistent aux ébats que nous avons prévus. »«
Pas question !»
répondit pauvre René, principal artisan de la scène, et qui y prenait un plaisir évident. Il était trop tard pour imaginer un autre scénario, et Agathe obtempéra. Imperturbable, Lino frappait déjà les 3 coups, et le mystère commença. Vêtue d'une longue tunique blanche, la récitante campa le décor. En l'an 304 de notre ère, sous le règne de l'empereur Dioclétien, de nobles vierges chrétiennes vivaient en Sicile. Elles étaient très belles de corps et de pensée, et adoraient Dieu en toute sainteté. Agathe, qui s'était inspirée des textes pieux du moine Jacques de Voragine, recommandé par l'oncle de Germaine, n'avait pas hésité à glisser, ça et là, quelques termes de vieux français. « Pour faire plus vrai », avait-elle expliqué à ses camarades légèrement sceptiques. Les mots s'étranglaient dans la bouche de Sarah. Mais le mal court, et le consul Quincianus, dont le cœur félon était agité de pensées malignes, manda Aphrodisie d'entraîner Agathe dans son bourdel. Ses yeux restaient bandés et son âme plus ferme que pierre. La jeune chrétienne ne se laissa pas séduire. Elle repoussa Aphrodisie, l'affreuse mégère au rictus maléfique. Agathe, dont l'arrivée sur scène avait provoqué un murmure d'admiration parmi les spectateurs, tant sa toilette de taffetas ponceau cousue dans les anciens rideaux de la salle à manger était réussie, enchaîna en déclamant, les yeux chavirés vers le ciel. « Tes paroles sont vent, tes promesses sont pluie, tes espouvantements sont fleuves. Si tu m'envoies, bêtes sauvages, et qu'elles entendent le nom de Dieu, elles s'agenouilleront à mes pieds, et l'Esprit Saint descendra sur elles. On que pourrira en enfer, ô toi, las d'orateur d'idoles !» Cependant, l'infâme consul, roulant des yeux lubriques, n'avait de cesse de renvoyer la future sainte aux Gémonies, un lieu localisé dans les coulisses où elle serait à nouveau tentée par les jouissances du bourdel, un temps d'arrêt qui devait permettre à Lucie de faire son entrée en scène. Sarah ravala sa salive. « Hélas, pour le fiancé de cette noble fille, la jeune Sicilienne préféra distribuer sa dot aux pauvres dans le besoin, plutôt que de se laisser raconter fleurette. » Bonne maman, qui observait le père à ce moment-là, vit bien qu'il n'approuvait pas une attitude aussi légère que dispendieuse, même venant d'une jeune chrétienne. Le consul Pachas fut encore plus catégorique que le père. D'un geste obscène, il ordonna que Vespasie, la deuxième mère Macrel, conduisit Lucie au lupanard. Le deuxième tableau, né de l'imagination fertile de pauvre René, devait suggérer une orgie romaine. Les postures, très suggestive adoptée par les figurants qu'il avait réunis pour imaginer la scène du bordel répétée en douce, ne laissait aucune place à l'équivoque. Voyant l'air horrifié de Lucie à l'idée des violences qu'elle risquait d'endurer, Lina ferma rapidement le rideau derrière la récitante qui, prise de court, resta une fraction de seconde les bras ballants, puis entonna fermement « Comme un cerf altéré, Brahme !» un cantique qu'il connaissait par cœur, à force d'avoir entendu sa petite amie le chantonner à tout bout de champ. Cet intermède musical n'avait pas du tout été prévu par Agathe. Il n'aurait d'ailleurs pas été de son goût, mais on vit le clan protestant rire sous cape, et Sarah fut longuement félicitée par la suite pour son esprit d'à-propos. Clos du spectacle, les supplices allaient déchaîner d'autres passions, voire d'autres rires. Ainsi, le troisième tableau, le martyr d'Agathe, fut un grand moment. Armé de ses tenailles, Lino, torse nu, chaussé de spartiate et coiffé d'un casque allemand récupéré au fond du Grand Pré, fit vite et bien. Au cours des répétitions, on avait longuement parlementé sur le bien fondé de dévoiler les seins d'Agathe sur scène.
Pauvre René y était favorable, Lino nettement opposé.
La principale intéressée, qui avait une poitrine petite mais ronde et haut placée, voyait d'assez bon œil de la montrer, même brièvement, à l'auditoire. Elle trancha pour ses amis avant que Lino ne le fasse pour ses seins. Elle abaissa rapidement le haut de sa robe, tandis que Lino brandissait son énorme pince et crevait subrepticement la poche de mercurochrome caché sous le corsage. On aperçut les doux mamelons, puis Thérèse, armée d'un linge éponge, se mit à tamponner vigoureusement le torse de son amie. La future sainte eut alors ses mots d'anthologie. S'adressant à Quincianus, elle dit avec une grande conviction « Félon cruel, n'es-tu pas confus de faire couper à une femme ce que tu m'esmes suça de ta mère ?» Dans l'intervalle, une main habile avait glissé les demi-melons devant la robe de la sainte. Paulette avait poussé la ressemblance jusqu'à piquer deux fraises au sommet des demi-sphères posées sur l'assiette. L'assistance masculine soupira de concupiscence. En quatrième partie, le martyre de Lucie fut tout aussi poignant, sinon plus subtil. Elle était restée prostrée dans ses dévotions. Après que Pachaz l'eut condamné à être enfermé dans le mauvais lieu déjà promis à sa sœur aînée. Mais la prostitution ne devait pas être son lot. Car le Saint-Esprit fit son corps si pesant qu'on ne pouvait le mouvoir. Pachaz fit venir 1000 hommes et lui fit lier pieds et poings, mais ils ne la purent 11 que mouvoir. La récitante avait repris de l'assurance. On appela à la rescousse 50 paires de bœufs, mais rien n'y fit. La chaste personne était inamovible. Agathe et Lino avaient beaucoup épilogué sur cette première torture infligée à Sainte Lucie. Mais comment parquer 50 paires de bœufs dans le jardin de Beaucèdre? Et comment affirmer que, si on les avait attelés au corps de Lucie, elles n'auraient pas décollé en flèche, subissant le sort d'Hector sous les murs de Troie? Quant au seul animal disponible, la vieille Tobia, son intervention sur scène était impensable, compte tenu de sa propension à aller uriner partout et à toute heure. Il était préférable, même si l'authenticité de cet autre crime n'était pas attestée par Jacques de Voragine, d'en rester à l'arrachage des yeux, une partie où Lino et ses petits instruments romains, donc eux authentiques, feraient merveille. Lucie ne s'en faisait pas trop pour l'œil gauche qui baignait dans la nuit, mais, se rappelant toutes les précautions prises par maman, elle se demanda soudain si Lino, dans son zèle, ne lui arracherait pas son œil valide. Prise de panique, elle sombra, tête renversée, dans son délire habituel. La mer moutonneuse envahit son regard, tandis que l'iris filait à l'anglaise à l'angle du sourcil, conférant à la scène une véracité inespérée.
Lino rompit le charme en faisant cascader les deux calots sur le plat en étain.
Après tant d'émotions, le cinquième et le dernier tableau parut un peu mièvre. Agathe devait être un peu fatiguée quand elle l'avait rédigé. Sarah évoqua la double couronne de chasteté des nobles jeunes filles. agenouillée aux pieds des deux saintes, sur la tête desquelles une auréole dorée avait été fixée en hâte par Zurbaran, surchauffée, le double consul fit acte de contrition, à grand renfort de signe de croix. En signe de repentir, le double bourreau se frappa violemment la tête contre le tronc du cèdre. Aphrodisie et Vespasie réclamèrent la sainte communion, tandis que la douce Thérèse épongeait tous les fronts trempés de sueur avec le linge rougi de mercurochrome et tendait aux deux chrétiennes la palme du martyr. Une colombe blanche, sculptée dans du papier mâché par Lucie, descendit du ciel crémeux de Zurbaran et, saintes et converties, proclamèrent leur foi, récitant avec ferveur « Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel ». Agathe ne craignait ni les anachronismes ni les plagiats. Médusé, le public ne réagit pas tout de suite. Un premier « Bravo !» sorti de la gorge nouée de l'oncle de Germaine, déclencha le délire. Parpaillotes et papistes en redemandaient. Sous un tonnerre d'applaudissements, les acteurs vinrent saluer trois fois. Le soir, lorsqu'elle eut embrassé ces deux comédiennes écroulées de fatigue, maman tenta d'élucider un autre mystère que celui des deux saintes. Pourquoi ces chères amies, qui consacraient leur année à préparer avec assiduité l'ennuyeuse vente de paroisse, s'étaient écroulées de rire ce jour-là? Chapitre 24. Dans la mémoire familiale, le mystère de sainte Agathe et de sainte Lucie resta gravé à jamais. Incontestablement, cela avait été la plus belle fête jamais organisée dans le jardin de Beaucèdre. Il avait été vécu par tous comme le couronnement de l'enfance des filles. Mais il en signait aussi, inexorablement, la fin. Agathe avait eu des sentiments mitigés après le triomphe de la représentation. Elle s'attendait à un public en larmes. Or, elle avait récolté des rires, et cela au moment les plus pathétiques. Sa crise mystique en prit un coup. Bachot en poche, elle se prépara à fréquenter mollement la fac de lettres. Elle fut rapidement entourée par un essaim de jeunes gens attirés à la fois par son charme et par son esprit. Lina avait brutalement quitté la ville. Ses grands-parents étaient devenus trop âgés pour s'occuper de lui. Son père, qui avait émigré aux États-Unis après la guerre, lui proposa de poursuivre ses études de médecine à Baltimore, où il avait refait sa vie. Le départ fut célébré en dessous. Maman et le père avaient tenu à être présents, ce qui évita des effusions trop appuyées. Agathe renifla un peu. Lucie cacha son chagrin derrière une longue mèche de cheveux qu'elle avait pris l'habitude de lisser sur la moitié de son visage, comme les mannequins dans les revues féminines. « Un clou chasse l'autre !» affirma sentencieusement Paulette, en connaissance de cause, car ses fiancés se succédaient à un rythme accéléré, à la fenêtre de la cuisine et sans doute aussi entre ses cuisses. Elle faisait allusion aux nombreux soupirants d'Agathe qui sonnaient au petit portail, puis faisait une razzia sur les plats de pâtes de coin devant lesquels maman les installait, préférant cela à voir sa fille s'éclipser avec eux dans le fond du jardin. Mais Lucie le savait bien, les flirts de sa sœur n'allaient jamais très loin. Elle adorait se faire courtiser, et de préférence par plusieurs à la fois, mais elle accordait rarement ses faveurs et restait aussi chaste que sa sainte patronne. Le plus tenace, après le départ de Lino, qui, en occupant la place, n'en laissait guère aux autres, fut René. Son béguin de jeunesse avait été attisé par le mystère des deux saintes, et malgré le rôle douteux qu'il y avait tenu, c'est en tout bien tout honneur, dès qu'il eut son diplôme d'avocat, qu'il alla demander la main d'Agathe au père. Quand elle la prit, elle éclata de rire, et l'affaire fut classée. Quelques-uns des prétendants, et conduits par sa sœur, se hasardaient parfois, par dépit, à faire la cour à Lucie. Mais cette dernière ne leur octroyait pas un seul regard et s'enfermait dans son silence. Zurbaran la suivait, comme son ombre, et lui prodiguait de nombreux signes d'attachement. Il confectionnait de merveilleux trompe-l'œil, technique dont il fit plus tard son gagne-pain, et lui offrit, le jour de ses 20 ans, un tableau qui représentait l'encadrement de la fenêtre de la jeune fille, ouverte sur le jardin. Chaque détail était criant de réalisme, le cèdre manchot, la terrasse où serpentait le tuyau d'arrosage, les pots d'agapante sur les marches de l'escalier. Une fois installée à Paris, Lucie suspendit la peinture en face de son lit et, chaque fois qu'elle se réveillait, elle avait l'impression, en le regardant, d'entendre grésiller les cigales. Lino revint dans le midi cette année-là, exceptionnellement, pour enterrer son grand-père. 8 jours après l'ensevelissement, Agathe annonçait au père et à maman qu'ils allaient se marier et qu'ils partiraient aux États-Unis à la fin de l'été. Chapitre 25. 3 déesses stationnaient au pied du perron, devant la maison. Le père de Lino, qui n'avait pu se libérer pour l'occasion, avait néanmoins bien fait les choses. Il avait loué pour le mariage de son fils ces voitures dont le modèle, quasi révolutionnaire, faisait l'envie de tous. Leur museau allongé semblait brouter les herbes folles qui poussaient entre les graviers de la terrasse. Leurs jantes chromées brillaient dans le soleil et éblouissaient les futurs occupants. 2 chauffeurs coiffés de casquettes galonnées aidaient bonne maman et maman à grimper dans la première. Le père s'affairait autour d'Agathe qui, empêtrée dans la traîne de sa robe de satin blanc, tentait de se hisser dans la seconde. Lino avait tenu à conduire la 3e. L'occasion était trop belle. Sa grand-mère et Lucie s'y enfournèrent. « Je ne me déguiserai pas en faire valoir de la mariée, en tenue rose bonbon. Je ne me coifferai pas d'une stupide tranche de pastèque recouverte de duvet de cygne. » avait-elle hurlé à maman qui lui montrait un catalogue intitulé « Le grand jour ». Elle avait exigé un long fourreau en mousseline rouge et n'en démordit pas. Détail remarquable, le dos était fermé par une rangée de petits boutons minuscules qui s'échelonnaient du haut du cou jusqu'au bas des reins. Avec son œil caché derrière une nappe de cheveux lisses, elle avait plus l'air d'une femme fatale se rendant à un bal que d'une demoiselle d'honneur selon les vœux d'Agathe. Elle avait pris place derrière la grand-mère de Lino, dans la déesse qui fermait le cortège. La chaleur était étouffante. On ne connaissait pas encore l'air conditionné dans les voitures. Lino allait très lentement, freinant souvent, et Lucie se sentit prise d'un léger mal au cœur. Elle regardait fixement la nuque du conducteur, où la transpiration commençait à perler. Une goutte, plus grosse que les autres, se fraya un chemin dans son cou. Elle fut envahie, soudain, du désir violent de l'arrêter avec sa langue. La perle s'engouffra dans le col de la chemise, tandis que Lucie imaginait sur ses lèvres le goût salé qu'elle aurait perçu si elle était allée jusqu'au bout de son envie. Lino avait stoppé derrière le convoi. Agathe lui faisait signe par la portière. « J'ai oublié mon bouquet, sur la table de la cuisine. Je peux pas rentrer dans le temple les mains vides, » expliqua-t-elle. Au petit matin, maman avait cueilli dans le jardin ses plus jolies roses, des blanches et des roses pâles, qu'elle avait simplement nouées ensemble. Agathe pinçait fortement ses lèvres et semblait très énervée. Ne t'inquiète pas, je retourne les chercher, dit Lino calmement, tandis que grand-mère changeait de voiture sous le prétexte qu'elle voulait s'installer tranquillement à l'intérieur de l'église pour voir arriver les gens. À vive allure, la déesse fit demi-tour. Mais, à la surprise de Lucie, Lino ne refit pas le trajet en sens inverse.
Il fait une chaleur horrible. Quelle barbe d'aller s'enfermer dans votre temple, si nous allions faire trempette. »
Il avait pris la route du littoral. Le port et la colline de Notre-Dame de la Garde s'éloignaient derrière eux.
Lucie ne dit rien. Elle avait l'impression que le temps s'était arrêté, et que les rochers blancs et la mer d'un bleu intense l'attendaient pour une autre cérémonie que celle où ils étaient censés se rendre. Elle avait oublié la fête d'Agathe, longuement préparée à Beaucèdre, la tente dressée sur la terrasse pour accueillir les invités, les cartons de petits fours qui s'amoncelaient dans la cuisine, les bouteilles de Dom Pérignon mises au frais à la cave.
Gênée par ses hauts talons, elle se tordait les pieds sur les aspérités des rochers, là où Lino avait abandonné la déesse. Il la souleva, il emporta dans ses bras et, brusquement, elle ne sut plus où elle était. Il l'avait allongée sur sa jaquette, mais elle sentait, au travers du tissu, les petits boutons de sa robe qui s'enfonçaient dans sa chair, tandis qu'elle s'agrippait au dos de Lino. Il glissait sa langue dans son oreille et murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas. Il embrassait ses paupières, et elle voyait la forêt d'acanthe et leurs grappes piquantes se prosterner devant elle. Il la pénétrait, et un voile se déchirait dans sa tête. Derrière, dans l'ombre, s'ouvrait une grotte où un caméléon roulait sans fin ses yeux paraboliques. Elle léchait la semence sur les mains de Lino et reconnaissait la laitance qui avait séché sur ses mollets de fillette et l'odeur de marée du poisson de Sarah. Le ressac de la mer en contrebas des rochers tambourinait dans ses oreilles. Ses yeux voyaient enfin jusqu'où s'étiraient tous les fils de la toile qui avaient tissé sa jeunesse. Son ventre connaissait le plaisir et les vagues cognaient dans son cœur, comme le bourdon de la basilique en haut de la colline. Elle voyait enfin ce qu'elle n'avait jamais encore vu, en trois, en quatre, en mille dimensions, celle de tous ses sens. Et c'était le sexe dur de Lino, planté dans son fourreau cramoisi, qui le lui révélait. Le soleil tapait sur ses tempes, qui semblaient sur le point de se rompre. Un archange se tenait au-dessus d'elle et l'enveloppait de ses ailes ruisselantes et glacées. « Dépêche-toi, ils nous attendent !» Titubant sur les rochers brûlants, elle regagna la déesse, où l'archange rajusta ses boutons de manchette et épousta sa tenue de jeune mariée. Chapitre 26. Lorsque Lino déboula dans la sacristie, Agathe, les yeux brillants de colère,
lui décocha.
« Alors, espèce d'andouille, où est mon bouquet ?»
Sans répondre, il arracha les fleurs artificielles qui s'époussiéraient depuis plusieurs années sur la table et les lui colla dans les mains. Toujours souriant, il arrondit son bras en direction de maman qui avait tenu à remonter la nef, son futur gendre à ses côtés.
« Tu es depuis toujours le fils que je n'ai jamais eu, » lui avait-elle dit, avec une moue un peu triste.
Lorsqu'ils firent leur entrée dans le temple, au son de la marche nuptiale, toute l'assistance s'impatientait depuis plus d'une heure, mais chacun reconnut qu'Agathe n'avait jamais été plus belle. Aussi pâle que la sainte peinte par Tiepolo, aussi altière qu'une princesse royale. Lucie avait pénétré dans l'église par la travée latérale. Elle s'assit au premier rang, comme on le lui indiqua. Quand le pasteur demanda « Agathe M., veux-tu prendre pour époux Raphaël D., ici présent, pour le meilleur et pour le pire, dans les bons et les mauvais jours ?» Elle entendit, comme dans un songe, le « oui » énoncé par sa sœur. Mais lorsque le pasteur répéta la formule « Raphaël D., veux-tu prendre pour épouse Agathe M., ici présente, pour le meilleur et pour le pire, dans les bons et les mauvais jours. » Lucie s'était déjà évanouie et gisait au pied de la chaire, inconsciente et les yeux révulsés.
Elle n'a pas supporté le balancement de la déesse, articula avec peine le père, en essuyant la salive accumulée au coin de la bouche de sa fille. C'est l'odeur des tubéreuses accrochées au banc de l'allée centrale, poursuivit bonne maman. C'est la chaleur, dit simplement maman, en regardant la cheville où traînait un filament de sang mêlé à une sorte de colle blanche, tandis que sa mémoire se décantait lentement et qu'elle revivait, horrifiée, la première séance de la petite chez l'oculiste. Seule Sarah se taisait. Assise derrière son amie durant la cérémonie, elle s'était demandé d'où venait le lambeau de varech collé à la robe de Lucie, à l'emplacement où deux boutons minuscules avaient été arrachés.
Chapitre 27.
Tu es une sale môme. Il faut toujours que tu veuilles attirer l'attention sur toi. Depuis que tu es toute petite, tu empoisonnes ma vie avec tes simagrées et ton œil torve. Il a fallu que tu gâches mon mariage. Et d'abord, où étiez-vous tous les deux? Et qu'avez-vous fait de mes roses?
La couronne de fleurs d'oranger en nacre vibrait d'indignation sur la tête d'Agathe, qui, assise devant la coiffeuse de maman, déversait un flot de venin sur sa sœur tétanisée. Sans répondre aux questions posées, Lucie articula enfin.
« Tu les avais tous à tes pieds. Les polytechniciens, les avocats brillants, les héritiers des savonneries. »
La suite de la phrase resta coincée dans sa gorge.
« Pourquoi m'as-tu volé, Lino ?»
Sarah venait de rentrer dans la salle de bain et les contemplait, catastrophés. Les invités vous demandent « Que faisiez-vous ?» Mais ni Agathe ni Lucie ne lui prêtèrent la moindre attention. Elles se bornèrent à échanger des regards lourds de signification en quittant la pièce. Le soir, dans la chambre nuptiale, Lino accomplit son devoir conjugal. Puis, sans doute fatigué par son exploit, il avait tout de même défloré les deux sœurs au cours de la même journée. Il s'endormit lourdement en tenant la main de sa femme. Ne trouvant pas le sommeil, Agathe se leva et ramassa machinalement les habits éparpillés sur le sol. Elle entendit quelque chose tomber et rouler sous le lit. Elle y découvrit sa plus belle Agathe, celle aux reflets irisés, gagnée par Lino après la partie de billes sous le cèdre, et qu'il avait offerte à la petite pour la consoler d'avoir perdu. Elle comprit que Lucie avait dû la glisser dans la poche intérieure de la jaquette du marié, à son insu. Mais elle ne savait pas, alors, qu'elle ne reverrait plus jamais sa sœur.